Bien. Alors avant de rentrer dans l'ordre du jour du conseil municipal, donc j'ai en préambule donc le rapport de la Chambre régionale des comptes. Alors ce rapport fait 25 pages. Je ne vais pas lire les 25 pages parce que ce sont beaucoup de pages qui sont techniques, qui sont très financières. Je salue l'arrivée de M. Anconière, qui sont financières essentiellement. Donc voilà, je ne vais pas vous lire ça. Je vais donc un peu vous rappeler les choses, vous dire un petit peu la synthèse. Et après, donc, je laisserai la parole puisque c'est un débat. Donc, c'est un document du 23 novembre 2017 qui revêt évidemment un caractère confidentiel qui convenait de protéger jusqu'à la communication à l'Assemblée délibérante. Et donc, il convenait de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche réunion, c'est-à-dire aujourd'hui, hein, puisque c'était au mois de novembre et nous sommes le 12 décembre. Et donc, il y aura donc débat à la suite. Et dès la tenue donc, de cette réunion, c'est-à-dire de ce conseil municipal, le document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, bien sûr, dans des conditions fixées par le Code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire qu'il est public, mais sur demande, il n'est pas diffusé larga manu, vous avez bien compris. Donc, je vais vous donner la synthèse. Hein, comme tous les rapports, évidemment, il y a une synthèse avec des recommandations que je vais vous lire avec quelques indications sur ces recommandations. Dans la commune de La Teste-de-Buch, alors ce contrôle de la Chambre régionale des comptes est des années 2010 à 2016. Voilà. Dans la commune de La Teste-de-Buch, présente une situation financière saine, avec des produits de fonctionnement qui progressent plus vite que les charges grâce à des bases fiscales élevées conjuguées à des taux relevés en 2015. La commune qui pratique une politique d'investissement soutenue, financée à plus de 90% par des ressources propres, définitive et peu endettée. Sa capacité de désendettement est en effet inférieure à 3 ans et la part structurée de sa dette, à hauteur de 9,4%, s'éteindra en 2020. Ces comptes sont par ailleurs bien tenus, à de rares exceptions près. Des corrections sont ainsi intervenues en cours d'instruction ou durant la phase de contradiction, alors des divergences entre inventaire physique et état de l'actif, durée d'amortissement des subventions versées. L'ordonnateur est également engagé à délibérer désormais, indépendamment du vote du budget, sur les modalités de constitution et de reprise des provisions. Il devra encore mettre à jour le tableau des emplois et veiller à joindre aux comptes administratifs les comptes des satellites. Les effectifs des personnels municipaux sont en légère diminution, mais ils bénéficient d'un aménagement du temps de travail très favorable et irrégulier, datant du début des années 2000, et qui se traduit par 10 jours de congés supplémentaires pour les agents, soit un déficit estimé à 18 équivalents temps plein. Le taux d'absentéisme sont en revanche légèrement inférieurs à la moyenne nationale, sans que la mise en place entre 2012 et 2014 puis le retrait du jour de carence semble avoir eu un impact perspectible. La commune avait en 2010 choisi de recourir à un contrat de partenariat pour la construction de son hôtel de ville. Ce contrat a fait l'objet d'un contentieux conduisant le Conseil d'État à constater l'absence de justification du recours à ce type de contrat par le motif invoqué de sa complexité, mais à en confirmer l'applicabilité au regard du coût de sa résiliation. Donc voilà la synthèse de ce contrôle de la Chambre régionale des comptes. Et le présent document a été délibéré, puisqu'il y a aussi un délibéré, le 13 septembre 2017. Dans les recommandations, il y a 3 recommandations. La première recommandation, c'est modifier la délibération relative aux durées d'amortissement des subventions versées pour la mettre en conformité avec le décret de 2015-1846 du 29 décembre 2015. Cette recommandation a déjà fait l'objet d'une rectification cet été, le 11 juillet 2017, et donc cette recommandation a été validée et donc elle a été mise en œuvre. Donc il reste deux recommandations à mettre en œuvre. La numéro 2, c'est délibérer indépendamment du vote du budget sur les conditions de constitution ou de reprise des provisions. Depuis le mois d'avril 2014, depuis la nouvelle mandature, le choix a été fait sur, du régime des provisions. Il y a un choix budgétaire, c'est technique, hein, je vais être court, il y a un choix budgétaire ou non budgétaire. Nous avons retenu le choix budgétaire, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement qui sont les dotations et les recettes d'investissement qui sont les provisions. Depuis le début de la mandature jusqu'à maintenant, avec ce choix budgétaire, il était présenté en annexe du budget. Bon, il nous est demandé maintenant de prendre une délibération indépendante, ce qui est fait aujourd'hui. Donc nous prenons une délibération indépendante et ça sera toujours en annexe au budget. Et enfin, la troisième recommandation, évidemment, est réviser le règlement du temps de travail pour se mettre en conformité avec la législation. Donc voilà la synthèse et les recommandations. Bien, donc maintenant, je vais vous dire un petit peu la suite. Donc la Chambre demande qu'en application de l'article 243.9 du Code des juridictions financières, de procéder donc à réaliser bien sûr ces recommandations dans un délai d'un an, donc à compter de la présentation du rapport d'observation définitive à l'Assemblée délibérante, c'est-à-dire aujourd'hui, donc nous avons l'année 2018, pour nous mettre en conformité et présenter évidemment un rapport devant la même Assemblée et les actions que nous avons entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes. Voilà, moi je vous ai exprimé de façon factuelle le rapport de la Chambre régionale des comptes. Y a-t-il des interventions au niveau des élus? Monsieur Pradérol.
Oui, bien évidemment. Ce rapport est intéressant parce que vous avez lu la synthèse, mais tout le développement est intéressant parce qu'il dit un certain nombre de choses que les uns les autres nous disons. Et ma foi, elles ne sont pas toutes désagréables pour la commune, hein, même que très rarement. Alors, ce rapport, il porte sur la période 2010-2016, soit sur 7 exercices budgétaires. Et il se développe sur 4 points. La situation financière de la ville, la tenue des comptes, les personnels et sur le PPP de l'hôtel de ville. Mon propos suivra tout simplement ce plan. Donc la situation financière de la ville. Le rapport de la Chambre régionale des comptes confirme ce que nous disons, nous, les quatre, sur ce banc, depuis de nombreux exercices. La ville de la Teste de Buch est devenue une ville riche. Malgré la baisse des ressources, conséquente parfois, je pense à la DGF, celle-ci augmente de 15% sur la durée. Les ressources fiscales dépassent les 29% d'augmentation. Elles en constituent 95% de l'ensemble aujourd'hui. Les impôts locaux représentaient 1021 euros par habitant pour 587 euros en moyenne nationale. La politique d'urbanisation forcée que subit la ville depuis 10 ans a porté ses fruits. Les bases ont augmenté de 85,5% sur la durée. La richesse de la ville est reconnue. La valeur locative moyenne des locaux d'habitation s'y élève à 4 773 euros, quand la moyenne nationale est à 3 878 euros. Le revenu fiscal moyen par foyer s'y élève à 28 382 euros en 2015, celui de la moyenne nationale à 24 351 euros. Les taux d'imposition à 22,38% sont supérieurs de près de 4 points au taux moyen de la strate, qui est à 18,41%. Le même constat vaut pour les bases et les taux du foncier bâti. Le rapport de la Chambre régionale des comptes n'a pas oublié la formidable progression de la taxe additionnelle aux droits de mutation, dont le produit s'est élevé en 2016, puisque c'est en 2016 qu'elle a arrêté, de nous surveiller à 2 748 693 euros. Vous avez sûrement été surpris, comme moi, lors de mon intervention sur... vous allez être surpris lors de mon intervention sur le budget, parce que je pensais que cette délibération arrivait en fin de conseil. Je n'ai effectivement pas développé tout ce que j'ai développé et que la Cour des comptes développe, donc ce sera toujours ça de moins pour la fin. Bien évidemment, à partir de cette abondance de ressources, se déclinent les excédents et les capacités d'autofinancement particulièrement confortables. La dette, 28,5 millions d'euros en 2015, était jugée sans risque et remboursable en 3 ans et 2 dixièmes. C'était avant les 8 400 000 supplémentaires de 2017, mais elle reste remboursable à moins de 5 ans. Cependant, cet encours de 28,5 millions représentait 1122 euros par habitant pour une moyenne nationale de 1099. Alors, ne chipotons pas, dans 2 ans et demi, un nouveau mandat possible, avec une nouvelle hausse de 3%, et etc. Mais à chaque jour suffit sa peine. Donc, politique d'urbanisme résolument volontariste, égale augmentation physique des bases, conjuguée avec des hausses de taux significatives en début du mandat, égale envolée des ressources fiscales et des droits de mutation. Voilà le secret de la ville riche que nous habitons. La Cour régionale des comptes a bien lu la même décision du Conseil d'État que moi. Il s'agit du PPP. Le Conseil d'État a bien confirmé que le recours à la procédure de dialogue compétitif et donc au partenariat public-privé par la ville était bien illégal. C'est sur le coût total de résiliation du contrat de 29 millions d'euros annoncé par la ville que le Conseil d'État a prononcé son arrêt par lequel il autorisait la ville à poursuivre son PPP. Nous savons tous ici que ces 29 millions constituent une tromperie, puisque nous avons tous voté la délibération du 13 juin dernier qui fixait à moins de 9 millions d'euros le protocole de transaction avec la société Oxyfif pour solde de tout compte. Je ne trouve pas les mots pour qualifier le procédé, alors ça sera point. Et nous apprenons aujourd'hui que ce fameux hôtel de ville, qualifié devant les tribunaux à énergie positive, c'était pour démontrer la complexité du projet, mesdames et messieurs. Nous apprenons que ce n'est même pas au rang de bâtiment basse consommation qu'il fallait le classer, mais à celui de passoire thermique. Je cite le rapport. Or, à l'usage, le bâtiment se révèle, et c'est vous qui parlez, se révèle, d'après la commune, d'un grand inconfort thermique, ce qui l'a conduit à faire réaliser une expertise et une analyse concluant que le bâtiment ne peut être qualifié de BBC, la consommation de gaz étant 3 fois supérieure à celle déclarée par le titulaire du contrat pour obtenir le label. Fermez le banc. Quel gâchis! Je comprends enfin pourquoi vous étiez si taiseux malgré ce jugement inespéré du Conseil d'État. Nous n'avons pas fini de payer ce choix calamiteux, mais nous sommes une commune riche. Une nouvelle hausse de 3%, etc. Venons-en aux ressources humaines, au temps de travail et aux absences. Je note en premier lieu que selon le pensum qui est très usé, selon l'idéologie de droite, selon laquelle si les fonctionnaires se mettent en maladie, c'est parce que le jour de carence leur permet de continuer de le faire, eh bien vous avez vu que ce que dit clairement le rapport, c'est que dans les 2 années où le jour de carence avait été institué, eh bien c'est pas pour autant que les jours de congé avaient régressé ou inversement. Alors, la Cour régionale des comptes, dans sa problématique temps de travail, lors de la commission des finances la semaine passée, nous avons eu droit à une communication dont le but était de nous inviter au secret de ce rapport, celui de la Cour régionale des comptes, que nous allions recevoir. Donc personne ne l'avait. Et le responsable administratif ne doit dire que seul le maire et lui-même étaient en sa possession à ce jour. Et cette précision s'adressait à un élu, qui est là, pas loin de moi, qui lui demandait si le contenu avait un rapport avec le message qu'il avait reçu des représentants des personnels. S'il avait reçu un message des représentants du personnel sur le contenu, c'est qu'il avait eu vent, bien évidemment, de ce contenu. Après réception de ce rapport de la Cour de la Chambre des comptes, eh bien oui, le contenu avait bien un rapport avec ce message qui avait trait au jour de congé. D'où ma question, puisque personne ne l'avait, il y en avait deux qui l'avaient, quid de M. Hérol ou du directeur des services a fait fuiter ces éléments du dossier, on peut se poser la question. Avouez que la situation était quand même cocasse. Enfin, peu importe. La Cour régionale des comptes remonte à la dernière délibération portant sur la durée du travail, sur la durée du travail des personnels, bien évidemment, du 20 décembre 2001. Je doute qu'elle ait été rédigée en opposition à la réglementation du moment. C'était un moment charnière de où commençait la mandature Jean-François Combirande, François Squano et moi-même faisions partie du bateau. C'était un moment charnière où nous sortions d'une large concertation avec les agents, ils sont nombreux ici, certains doivent s'en souvenir, où nous sortions d'une large concertation avec les agents suite à la mise en œuvre des 35 heures et au début d'une autre concertation avec ces mêmes agents sur le passage à l'euro. Ce changement n'était pas non plus sans incidence à ce moment-là sur les conditions de travail. J'observe que la Cour régionale des comptes n'a jamais fait d'observation à la ville à ce sujet. L'observation qui vous est faite cite l'auteur et l'objet. Il s'agit d'une note du directeur général des services qui fixe la durée du temps de travail pour 2016 à 1540 heures au lieu de 1607 heures réglementaires. Or, là, bien évidemment, la Cour des comptes vous demande de revenir à 1607 heures. J'en conviens, l'exercice n'est pas simple. Mais il ne doit pas être insurmontable. Alors, moi, je n'ai rien à proposer, puisque je ne suis pas en situation. Mais je ferai deux observations. La première, c'est écrire sur une note de service que le temps de travail est de 1540 heures, soit de 67 heures de moins que la durée légale qui est fixée par la loi, ça me semble un peu balourd. Surtout quand on sait que la Chambre régionale des comptes est dans les murs. Deuxième observation, je pense que vous êtes engagé sur une réflexion sur le régime indemnitaire et que là, vous avez toute latitude, et les uns et les autres, vous avez toute latitude pour moudre du grain parce que effectivement, il va s'agir de négocier. Et donc, je souhaite bonne chance aux conclusions de cette négociation. Merci.
Merci, M. Pradérol. Y a-t-il d'autres interventions ?
Bien, vous avez déjà ouvert le débat sur le budget. Je ne sais pas si ça a intéressé grand monde à ce stade au niveau de ce rapport. Hein, alors bon, moi, sur le PPP, donc je ne suis pas taiseux. Je ne vais pas commenter une décision de justice, hein, je vous l'ai déjà dit. Après, les taux sont élevés, la commune est riche, etc. Je vous l'ai dit, hein, puisque de toute façon, nous en sommes à la troisième mandature. La faute à qui, hein, bon, vous avez dit...
Il le dit, c'est la Chambre régionale des
comptes.
Écoutez,
M. Pradérol, je ne vous ai pas coupé. Hein. Alors, on va pas commencer. Hein. Oui, on est dans un débat, mais quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Donc, ayez la délicatesse de me laisser parler. Hein. Donc, je vous le dis à chaque fois, parce qu'à chaque fois, vous dites, chaque fois qu'il y a une mandature, j'augmente les impôts, etc., etc. Et donc, comme ça, la ville est riche. Donc, moi, je vous répète que ma première mandature, il y a eu un contrat de mandature avec 2% et je n'ai pas augmenté les impôts dans la mandature. La deuxième mandature, donc celle qui est en cours, c'est 3% et je n'augmente pas les impôts dans la même mandature. Et votre mandature, puisque vous étiez associé, c'était 17%. Voilà. Alors, à chaque fois, vous me dites, vous en avez bénéficié. Enfin, ce n'est pas une raison. Voilà. Et puis, alors, après, l'idéologie de droite, hein, je vous laisse vos responsabilités. Je pense, hein, qu'ici, j'ai autant et peut-être plus la fibre sociale que vous. Donc, la suite, hein, il est bien évident, puisque vous attendez la suite, il est évident que c'est factuel. Vous avez bien compris qu'il y a un an,
C'est tout à fait normal que nous soyons évidemment dans les clous. Donc les négociations commenceront. Bon, on va laisser passer les fêtes, n'est-ce pas, puisque nous avons quand même pas 15 jours. Donc je vais fixer donc un rendez-vous au syndicat, hein, puisque qui vous représente, hein, bien sûr, puisque vous êtes là. Donc dès le début janvier. Et puis nous aurons un certain nombre de, ben, d'entretiens, d'allers-retours, hein, pour que nous puissions nous mettre, disons, comme de très très nombreuses communes, hein, puisque je pense que vous n'êtes pas sans savoir les uns et les autres qu'il n'y a pas que la Teste, hein, et qu'il y a des communes partout, que ce soit Paris, que ce soit de très très grandes communes et des petites, hein, où ce problème a été révélé. Donc comme Monsieur Pradérol le disait, il y eut un temps, bon, les délibérations étaient ce qu'elles étaient, elles n'ont pas été... Peut-être à ce moment-là, bon, je ne vais pas porter de jugement, maintenant c'est factuel, il y a ce constat qui est là, avec une chambre indépendante, hein, la Chambre régionale des comptes est indépendante, donc on a une obligation évidemment de se mettre en l'égalité, hein, donc avec ce rapport. Donc nous avons un peu de temps, et donc vous avez vos représentants syndicaux que je recevrai très rapidement pour fixer un rendez-vous dès janvier, et nous aurons évidemment, je pense, dans la sérénité, nous allons arriver à trouver des solutions. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est bien, vous étiez nombreux, au moins comme ça vous savez exactement la vérité, et pas des dires, des racontars avec un certain nombre de jours. J'ai entendu beaucoup de choses ces jours-ci. Là, vous avez un rapport de la Chambre régionale des comptes. Vous l'avez entendu en direct. Voilà. Maintenant, nous allons passer donc à l'ordre du jour.